Europe 1, en balade avec François Sureau. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec François Sureau que nous partons en balade aujourd'hui. Écrivain, avocat, c'est l'une des grandes consciences de notre époque. Dans son dernier texte, « Sans la liberté » qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Tract, il est d'une sévérité terrible avec ceux qui nous gouvernent et avec nous qui sommes responsables de la façon dont nous sommes gouvernés. François Sureau nous a donné rendez-vous à l'Hôtel des Grands Hommes, sur la place du Panthéon.
Frédéric Taddeï, en balade avec François Sureau sur Europe 1.
Bonjour François Sureau.
Bonjour.
Pourquoi avez-vous choisi l'Hôtel des Grands Hommes ?
J'ai choisi l'Hôtel des Grands Hommes, pas par vanité, ni pour vous, ni pour moi. J'ai choisi l'Hôtel des Grands Hommes, en fait, pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est que il y a un écrivain qui a beaucoup compté dans ma vie, qui est André Breton. Et André Breton vivait à l'Hôtel des Grands Hommes en 1918. Ouais. Il quitte le service de santé où il était comme avec Aragon d'ailleurs, et il vient habiter à l'Hôtel des Grands Hommes. Et c'est l'Hôtel des Grands Hommes. Et vous vous souvenez de Nadja, ce livre extraordinaire de pérégrination dans Paris derrière une jeune femme qui est quand même à moitié folle et qui d'ailleurs finira dans des conditions tragiques.
Et qui existait vraiment.
Et dans c'est un livre assez original parce que vous savez que Breton détestait le côté romanesque classique, les descriptions littéraires, et donc il met des photographies à l'intérieur de Nadja. Et l'une des premières photographies, c'est l'Hôtel des Grands Hommes. Voilà. Parce qu'il y habitait.
Alors, la plaque à l'extérieur nous dit qu'il cite ici qu'il a écrit avec Philippe Soupeau, voilà, Les Champs Magnétiques, qui est le premier vrai livre surréaliste.
Surréaliste, d'écriture automatique. Et c'est là où il a fait également la connaissance de Perret. Alors c'est très André Breton. Il avait la chambre 8, je crois, au premier étage, quelque chose comme ça. Et à la chambre 8, il est là, il le décrit dans Nadja d'ailleurs, et un soir, il voit, c'est très surréaliste, il y a une dame qui frappe à sa porte, qui ne connaît pas naturellement, qui a l'air à la fois belle, fatiguée et un peu étrange. Et la dame lui dit, je voulais juste m'assurer que vous étiez là, parce que il y a quelqu'un qui va venir de province pour vous voir, qui professe une immense admiration pour vous, et je voulais juste savoir si vous acceptiez de le recevoir. Et Breton lui dit, bah oui, envoyez-le, j'accepterai de le recevoir. C'était Benjamin Perret, qui était également un des fondateurs du groupe surréaliste, et qui avait envoyé en avant-coureur, si je puis dire, cette dame.
On l'imagine à l'époque, l'Hôtel des Grands Hommes, ça devait être moins chic qu'aujourd'hui.
Oui, là, alors, c'est assez... là, c'est un côté très anglais, c'est-à-dire qu'il y a un côté... il y a de l'acajou, il y a des espèces de stucs néoclassiques, il y a des grandes vasques. À l'époque, quand on voit les photos de Nadja, ça a l'air beaucoup plus pourrave, quoi. Enfin, d'ailleurs, Breton n'avait pas un rond. D'ailleurs, Breton n'a pas eu de rond pendant presque toute sa vie. Il vivait en dehors de ses droits d'auteur, il vivait des tableaux qu'il achetait, qu'il revendait, qu'il conservait, notamment pour Jacques Doucet, l'homme de la bibliothèque Doucet. Breton n'a jamais vécu sur un grand pied. Et je pense qu'à l'époque, en effet, ça devait être un peu moins. Mais c'est un endroit extraordinaire parce qu'il est, enfin à mes yeux en tout cas, moi je suis un fou de Paris et des pérégrinations énigmatiques dans Paris.
Ça tombe bien.
Et, voilà, donc c'est parfait. Alors l'Hôtel des Grands Hommes, c'est effectivement l'une des stations de Nadja, avec la statue d'Étienne Dolet, avec les grands boulevards, avec le théâtre où il y a Musidora, la vente de Judex. Enfin, c'est toute cette espèce de promenade énigmatique où un Paris étrange se révèle sous le Paris que nous voyons.
Mais c'est drôle, là où ça peut paraître inattendu, c'est que vous êtes un homme aujourd'hui véritablement en prise avec le réel, et je m'étonne que vous ayez tant aimé les surréalistes.
Ah non, alors c'est assez curieux, c'est exactement l'inverse, si je puis dire, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est, évidemment je fais un métier d'avocat, donc ça il vaut mieux être en prise sur le réel, mais le fond, le fleuve souterrain chez
c'est
moi,
l'écrivain.
C'est le fleuve du surréalisme, c'est l'idée qu'il y a un monde caché sous l'autre, qu'il y a un monde caché derrière les apparences. Et c'est vraiment le sens profond de Nadja, des rencontres imprévues, de la poésie des lieux, un endroit où j'aurais aimé vous emmener aussi, mais c'était un peu loin d'ici, c'est près du Bouillon Chartier, rue du Faubourg Montmartre. On entre dans le Bouillon Chartier, et à gauche, une petite cour, il y a une plaque, et c'est là où est mort Lautréamont. Et il y a simplement écrit sur une plaque en ébonite, qui dérange le calme de ma chambre funéraire, j'avais demandé que personne n'entrât. Voilà. Ça, c'est absolument fantastique.
Ça vous plaît.
Ça me plaît énormément. Et alors, de temps en temps, je sors la tête de mon terrier quand le gouvernement se montre liberticide, quand, voilà, il y a des choses pénibles à mes yeux qui se passent. Et donc, je me force, en fait. Je me monte le bourrichon pour sortir la tête de mon terrier, car s'il ne tenait qu'à moi, je resterais bien à l'intérieur.
balade avec François Sureau sur Europe 1.
Mais en même temps, François Sureau, vous voyez, je dis en même temps.
Oui,
on vous présente toujours comme un ami d'Emmanuel Macron, et pourtant vous êtes l'un des plus sévères avec le président de la République, Emmanuel Macron, avec son gouvernement et avec sa majorité.
Je vais pas avoir l'air de me défausser, mais pas vraiment avec lui, c'est-à-dire que ou avec son gouvernement. Ça, le livre que j'ai écrit sur la liberté, c'est un livre qui consiste à dire, et ça a à voir avec l'endroit où on est, avec l'hôtel des grands hommes, etc. C'est un livre qui consiste à dire, au fond, nous assistons à un déclin des libertés depuis 20 ou 30 ans. Alors, on peut en rendre responsable ce gouvernement-là, le gouvernement précédent au moment de l'état d'urgence, le gouvernement d'avant sous Nicolas Sarkozy. Et pour moi, ça n'est pas l'essentiel. Ce qui me frappe, c'est la diminution de l'amour des libertés. Et c'est cette diminution qui rend possible à des gouvernements qui sont toujours soucieux d'efficacité et de sécurité. Les précédents, comme le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est les gouvernants sont par nature soucieux de ça. Mais c'est la diminution de notre optimisme et notre amour de la liberté qui rend possible les mesures liberticides. Sous ce rapport, c'est pas vraiment une critique de ce gouvernement-là. Non, c'est plutôt une critique de nous, c'est-à-dire du fait que... Parce que nous l'acceptons et parce que quelque chose en nous le demande.
Et que c'est pour nous faire plaisir, au fond.
Et c'est pour nous faire plaisir, parce qu'on le veut, parce qu'on le souhaite, parce que globalement, des gouvernements assez largement... substantiellement discrédités en politique, dont les gens voient bien qu'ils n'ont qu'une très faible influence sur leurs conditions de vie réelle, sur quoi peuvent-ils se rattraper, sur la sécurité et sur l'ordre. Et ce que j'aime dans le surréalisme, d'ailleurs, et qui n'a jamais cessé de m'accompagner, c'est cette idée que Breton dit, d'ailleurs, à un moment dans un texte sur le surréalisme et la peinture, il dit « on ne prend pas sans danger des libertés avec la liberté ». Et il a parfaitement raison. C'est-à-dire que ce que j'aime dans le surréalisme, comme dans d'autres mouvements, d'ailleurs, comme même dans le premier romantisme ou dans les écrivains du XVIIIe, c'est ce sentiment que la liberté est une pulsation fondamentale qui, à la fois, nous fait créer, nous fait avancer et, en même temps, rend simplement vivables nos institutions politiques. Je trouve que nos institutions sont en train de devenir invivables, mais simplement parce que notre amour de la liberté décroît, pas parce que les gouvernements sont intrinsèquement méchants.
Eh bien, vous allez nous expliquer ça, François Sureau. On se retrouve dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec François Sureau sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec François Sureau à l'Hôtel des Grands Hommes, assis dans des banquettes rouges. Il fait assez beau dehors, il y a le Panthéon juste en face de nous. Votre texte qui vient de paraître dans la collection Tract chez Gallimard, François Sureau, s'intitule « Sans la liberté ». Au fond, vous nous dites que nous sommes déjà habitués à vivre sans la liberté et que finalement nous sommes mûrs pour la tyrannie.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a certainement une tendance depuis 20 ou 30 ans en fonction de ça. Et on le voit une chose très simple. Je crois que il faut sortir du dilemme sécurité, liberté, moins de liberté, plus de sécurité, etc. C'est quoi notre système depuis pratiquement deux siècles? Ça consiste à dire que les méchants doivent être punis, ça c'est sûr, que l'émeute n'est pas une bonne chose, que voilà, parce que nous sommes une démocratie dans laquelle la majorité a la possibilité de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas dans un assez grand nombre de pays à travers le monde. Donc les méchants doivent être réprimés, mais néanmoins il y a une règle absolument intangible qui est que la répression des méchants ne doit pas permettre au gouvernement d'établir une société de la prévention. En d'autres termes, avant que quelqu'un n'ait commis un acte mauvais, on ne peut pas le poursuivre uniquement sur le fondement de l'idée qu'il pourrait commettre un acte mauvais. Sans ça, si c'est le gouvernement qui définit ça, ça veut dire que tout le monde est susceptible d'être contrôlé et il n'y a plus de citoyens libres. De la même manière, et c'était le cas pour la loi sur la liberté de manifester, on peut certainement interdire une manifestation si on pense qu'elle va mal tourner, mais on ne peut pas choisir individuellement les manifestants en disant « vous, vous ne pouvez pas avoir le droit de manifester parce qu'on pense que si vous manifestez, ça va mal se passer ». C'est ça que nous voyons se mettre en place depuis 20 ans, c'est une société du contrôle social et de la prévention.
Alors surtout que celui qui est susceptible de trier les bons et les mauvais manifestants...
C'est le sujet, c'est l'État.
C'est l'État, c'est le préfet.
C'est l'État, c'est le préfet, c'est le gouvernement, ça veut dire que globalement l'État, qui est censé être notre chose à nous, en réalité, nous devenons les sujets de l'État au lieu d'être les citoyens d'un État libre. Et ça, c'est une dérive qui est extrêmement inquiétante.
Et qu'il n'y a qu'un pas entre cette loi-là et l'interdiction pure et simple de manifester définitive.
Exactement. Et ça, il faut s'interroger là-dessus, c'est-à-dire que quelle est la raison profonde de ça? La raison profonde de ça, je pense que c'est la peur. C'est-à-dire le fait que, collectivement, nous ne sommes plus si assurés de nous-mêmes comme nous l'étions autrefois. Et donc, nous pensons, on l'a bien vu au moment des Gilets jaunes, on le voit au moment du terrorisme, nous pensons que des actes, quelquefois extraordinairement violents, extraordinairement douloureux, sont capables d'abattre notre société entière. Cette pensée est nouvelle. J'y pensais récemment parce que je voyais une discussion sur le retour des 400 djihadistes de Syrie qui vont revenir, et j'assistais à de véritables mouvements de panique. Comment 400 djihadistes vont venir ? Ce mouvement de panique me surprend, parce que c'est certainement difficile à traiter. Ces types sont certainement d'abominables criminels, au moins pour certains d'entre eux. Mais enfin, on est la France, 60 millions d'habitants, des policiers, des magistrats antiterroristes, des gendarmes, une armée, des institutions. Si tout ça est susceptible d'être mis en péril par 400 terroristes, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à plier les Gaules et à licencier la police et la magistrature pour se consacrer à la culture des fraises. Et que manifeste cette inquiétude ? D'une part, la démagogie des gouvernements qui surfent sur l'inquiétude. Et puis, elle manifeste aussi la peur qui est la nôtre, la peur que les forces du chaos déferlent. Et face à cette peur, eh bien, nous sommes tentés d'ériger en permanence des barrières répressives.
Mais la peur est la chose la mieux partagée aujourd'hui. On voit bien par les titres des livres qui sortent, soumission, terreur, peur. C'est devenu quotidien, quasiment. Oui. Et dès l'instant où on veut nous faire peur, au fond, qu'est-ce qu'on veut ? On veut un gouvernement plus autoritaire.
Alors, il y a deux choses. D'abord, on veut nous faire peur, et on peut dire au fond que c'est une action presque institutionnelle pour, suscitant la peur, permettre la constitution d'un gouvernement autoritaire. Si on pense ça, on est presque complotiste. C'est-à-dire que je pense qu'en réalité, les gouvernements ont tout aussi peur que nous.
L'État est moins assuré qu'il ne l'était.
L'État est à l'évidence bien moins assuré qu'il ne l'était. Et c'est tout à fait visible dans les déclarations de son responsable, dans les comportements de ses forces de l'ordre. Il y a une sorte de crainte. Il y a le fait que, on l'a vu à un ou deux moments, au moment de l'affaire des Gilets jaunes, le sentiment qui prévalait était que nous étions au bord de l'inconnu institutionnel. Une fois qu'on a dit ça, la question qu'il faut se poser, c'est d'où vient cette peur ? Il me semble que cette peur vient très profondément d'une sorte de mouvement de civilisation. C'est pas un peu grandiose et cucu de dire ça, mais qui est très caractéristique, c'est que nous avons peur. Dans toute société, il y a du mal. Il y a du mal. Il y a du mal social, il y a du mal-être, il y a du mal économique, il y a du mal criminel, il y a du mal terroriste, le cas échéant. Jusqu'ici, pendant presque 1000 ans, on a su quoi faire avec le mal. Le mal, il était traitable par une option religieuse, le salut, la correction de soi-même, la rédemption, la confession, la pénitence, que sais-je encore. Bon. Dans une deuxième partie de notre vie de civilisation, le mal était susceptible d'être traité par la fabrication d'un projet politique qui, en réduisant les causes du mal, notamment les causes sociales et économiques, permettait d'espérer que le mal diminue. Nous avons cessé de croire à l'une, c'est-à-dire à l'option du salut, et nous avons également cessé de croire à l'option du salut laïque, comme dit Sartre, c'est-à-dire à l'option du salut collectif, à l'idée du projet d'une société des droits et du projet d'une société heureuse, en quelque sorte. On n'y croit plus tellement, ni vous, ni moi, ni personne.
Mais c'est assez récent, ne croyez-vous pas ? Je me souviens, sous Lionel Jospin, quand il était Premier ministre, on pensait encore, et notamment Lionel Jospin, je crois, qu'à partir du moment où on réduisait les inégalités, on allait réduire la délinquance et l'insécurité. Ça lui a pratiquement coûté sa place au Absolument. Deuxième tour de l'élection présidentielle.
Absolument. Et ça, c'est un. Toutes ces pensées nous sont désormais interdites. C'est-à-dire que, au fond, nous vivons quand même. Nous avons vécu 50 ans ou un dernier siècle extrêmement douloureux. C'est-à-dire, ce sont les démocraties libérales et non pas les totalitarismes ont fait la guerre de 14, qui a été une guerre civile européenne absolument effarante. D'où est sorti d'ailleurs le mouvement surréaliste comme une forme de protestation de ce que l'ordre occidental avait donné. Il faut jamais oublier ça. On est à l'hôtel des grands hommes ici, là où Breton a lancé le mouvement surréaliste en réalité, et ce mouvement est un mouvement de protestation contre le fait que tout ce dont on parle maintenant, par exemple pour s'en réclamer face au terrorisme, la démocratie libérale est le responsable d'un des plus grands carnages de l'histoire universelle, la Première Guerre mondiale, d'où sont sortis les totalitarismes et les horreurs de la seconde, Shoah comprise. Et donc, nous avons perdu notre innocence politique. Enfin, ça fait plus d'un siècle qu'on ne peut plus vivre dans l'innocence politique. Après la disparition du totalitarisme, on a espéré que la démocratie libérale, l'assomption de la démocratie libérale serait une voie de salut, et on voit qu'elle ne l'est pas. Et donc, je pense que cette espèce de désabusement, de désenchantement du monde, pour parler comme gaucher, est ce qui nous rend extraordinairement craintifs. Et corrélativement, que demande-t-on à l'État ? Le minimum, c'est-à-dire la sécurité, fût-ce au prix de la liberté.
François Sureau, je vous propose de sortir, puisqu'il fait si beau, et de faire le tour du Panthéon, puisqu'il nous tend les bras.
Frédéric Tadéhi se balade avec François Sureau sur Europe 1.
Nous sommes maintenant sur la place du Panthéon, au pied du bâtiment, tout ensoleillé. Le Panthéon, c'est aux grands hommes la patrie reconnaissante.
Oui, alors c'est assez curieux parce que, enfin, moi je dois avouer quelque chose qui va paraître assez horrible, mais je ne suis pas du tout un fanat du Panthéon. Évidemment, j'étais heureux quand Simone Veil est rentré, j'étais heureux quand Malraux est rentré, surtout le discours de le discours pour le transfert des cendres de Jean Moulin, tout ça est très beau, ce sont de très belles cérémonies. En même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de clinquant, de bureaucratique et de ridicule dans cette espèce d'apothéose républicaine. D'ailleurs, quand on va à l'intérieur, on est absolument frappé parce qu'on se promène parmi les tombeaux, on ne connaît pas les trois quarts des types. Il y a le notaire qui a dû enregistrer la déclaration des droits de l'homme, il y a les gens les plus bizarres. Vous verrez que dans 10 ou 20 ans, on se demandera s'il ne faut pas en faire sortir quelques-uns parce qu'ils auront pris des positions qui ne correspondent plus aux positions de l'époque. Il y a cette espèce de pendule étrange.
Le
pendule de Foucault qui brinque-balle au milieu.
En fait, qui nous a permis de vérifier voilà. que la Terre était bien ronde.
Non, mais,
et qu'elle tournait
tout ça,
plutôt.
Tout ça est absolument très bien, mais il y a quelque chose d'absolument kitsch et burlesque dans le Panthéon. Moi, j'avoue une préférence pour le système anglais où on met tout le monde ensemble dans des édifices religieux. Par exemple, la cathédrale Saint-Paul. Il y a une très belle... La dalle du soldat inconnue à Londres est absolument magnifique parce que il y a des plaques absolument partout, il y a des poètes, quelques-uns mineurs, d'autres majeurs, etc. Il y a des écrivains et des hommes politiques, et puis la dalle du soldat inconnu dit simplement « Ici repose un soldat inconnu dans la seule compagnie des poètes et des rois ». Alors j'aime énormément ça parce que, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un poète, qu'est-ce que c'est qu'un roi et qu'est-ce que c'est qu'un soldat inconnu ? Ce sont des gens qui n'ont pas choisi de l'être. On est poète parce qu'on est habité par la pitié, on est un soldat inconnu parce que l'État vous a dit qu'il fallait vous faire trouver la paillasse. Et on est un roi parce qu'on est le fils de son père. Il y a à l'inverse dans le Panthéon une espèce d'apothéose de la volonté politique, vous voyez ce que je veux dire ? Que je trouve assez, en effet, assez française, assez administrative, mais assez peu littéraire et assez peu tranquille. C'est la raison pour laquelle ce bâtiment ne me satisfait pas
entièrement. Vous n'aimez pas les grands hommes qui ont choisi d'être des grands hommes.
Exactement. Je me méfie du grand homme qui a choisi d'être un grand homme. En revanche, j'ai beaucoup de tendresse pour celui qui, au fond, le devient parce qu'on a l'impression que, même s'il l'a voulu un moment de sa vie, les circonstances le propulsent. Hein, comme De Gaulle quand il dit comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries, ou Clémenceau qui était quand même un type absolument foutraque, abonné aux duels et aux danseuses, compromis dans l'affaire du Panama, mais vers qui à la fin toute la République se tourne à la fin de la Première Guerre mondiale.
Est-ce que nous n'entrons pas dans une période un peu similaire, non pas par son côté dramatique, mais parce que justement elle nous oblige à choisir, à nous dresser, à résister, comme vous le faites, vous, depuis quelque temps déjà.
Oui, enfin, c'est une résistance. Ça, la résistance de la plume est une résistance assez modeste. Et puis, globalement, malgré tout, il ne faut pas oublier le fait que, comparé à l'essentiel ou la très grande majorité des pays du monde, nous avons la chance, à cause des sacrifices de nos aînés, de vivre dans une démocratie libérale, malgré tout, malgré ce qu'on peut dire, apaisée,
tolérante. Mais qui est menacée, d'après ce que vous nous dites.
Elle est menacée à long terme par un courant extrêmement puissant qui tient à ce manque de confiance que nous avons fini par éprouver en nous-mêmes.
Et c'est maintenant qu'il faut réagir, donc, si je vous entends bien.
Oui, mais alors réagir ne signifie pas, mais ça c'est sans doute un défaut de ma part. Moi, je suis assez peu militant, assez peu indigné de nature et assez peu protestataire. Pour moi, d'une certaine manière, réagir, c'est d'essayer de diffuser en nous, dans l'éducation, chez les gens qui nous sont proches, le simple amour de la liberté, le fait que, globalement, on gagne plutôt quelque chose à la cultiver qu'à l'amoindrir, qu'il faut accepter de payer le prix qu'elle suppose, c'est-à-dire d'être dérangé par des opinions contraires, par des comportements contraires, par l'émeute, le cas échéant, par des choses pénibles, mais que ça vaut mieux que de vivre dans une espèce de clinique helvétique protégée par des lanceurs de balles de défense, quoi.
Europe 1, en balade avec François Sirot, Frédéric Taddeï.
La liberté, c'est vrai que quand on en parle, tout le monde est toujours là pour la défendre, même si ça n'est plus, comme vous dites, qu'à propos de fin de banquet de nos jours. Mais il y a l'état de droit aussi. Et l'état de droit, il y a de moins en moins de gens pour le défendre. N'avez-vous pas cette impression ?
L'état de droit, il souffre de deux ou trois... Il est en crise pour deux ou trois raisons, à mon avis. D'abord, la première raison, c'est que les gens ne le voient plus que comme une mécanique et non pas comme quelque chose porteur d'un projet collectif et d'un idéal. Malgré tout et malgré tous leurs défauts, quand vous regardez les décisions de la Cour suprême des États-Unis avec leurs opinions dissidentes, vous verrez qu'à chaque fois qu'il s'agit d'une question de censure, d'une question d'interruption de grossesse, de mariage entre personnes du même sexe, etc., à chaque fois, vous avez un débat quasiment philosophique sur la question de savoir ce que les pères fondateurs ont voulu faire et ce que leurs successeurs ont voulu faire de la démocratie américaine. Cette chose a un peu disparu chez nous parce qu'au fil du temps, notre esprit juridique a été gangrené par l'administration qui tend à voir le droit comme un simple avatar du règlement de l'infanterie, c'est-à-dire comment se comporter dans le cas A ou dans le cas B. d'où l'inflation législative, etc. Et de manière générale, l'oubli de la réflexion sur les principes. J'aime bien le Conseil constitutionnel qui a mis un coup d'arrêt à un certain nombre de dispositions liberticides au cours des années précédentes, mais force est de constater que, à mes yeux du moins, il ne va pas assez loin dans le débat de principe, dans les raisons pour lesquelles il convient de dire oui ou de dire non. Donc il y a une espèce de... L'état de droit, il est menacé par ça. Il est menacé aussi par autre chose qui est tout à fait différent et qu'on voit en revanche beaucoup en ce moment chez les juges, qui est le mélange de la morale et du droit. C'est une régression archaïque. Je n'ai aucune sympathie particulière pour M. Balkany, pas plus naguère que pour M. Carignon, mais j'étais très frappé de lire que les attendus des décisions les concernant étaient en fait des cours de morale et des sermons. En réalité, la société civilisée est celle qui distingue absolument la morale et le droit, et ça, nous sommes en train également de le perdre.
Il y a une chanson à laquelle j'ai pensé en lisant votre tract, puisqu'il ne s'agit pas d'un livre broché, mais d'un tract. Les feuilles y sont agrafées. C'est la chanson d'Aznavour, Liberté. On va l'écouter, vous me direz ce que vous en pensez.
Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui voulaient te défendre. Et voilà tes amis, ils étaient trop petits, et demain, le bourreau va les pendre. Ils aimaient bien leurs enfants, ils aimaient bien leurs parents, et pas qu'un peu le vin rouge et l'amour. Mais quelque chose manquait qu'ils ne pouvaient expliquer, et c'était toi, liberté des beaux jours, avec une rose au chapeau, bien plus jolie qu'un drapeau, droit devant eux un jour s'en sont allés. Mais ils n'ont pas fait quatre pas que les sergents étaient là, qui les tenait au bout des pistolets. N'as-tu pas deux visages, liberté, l'un joyeux, l'autre grave. Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, de ceux-là qui t'ont cru sur parole. Ils ne t'ont jamais vu, ils ne te verront plus. Liberté, fameux rêve des hommes. Ils ne parlaient que de toi, ils ne vivaient que de toi, et c'est pour toi qu'ils prieront dans le ciel. Rien n'a changé dans leur cœur, ils n'ont pas froid, n'ont pas peur. C'est toujours toi, liberté, leur soleil. Et quand on les a condamnés, ils ont salué sans pleurer, et l'un à l'autre ils se sont embrassés. Ils ont crié, vive le roi, vive la reine et la loi. Mais vive aussi, vive la liberté.
C'était Liberté, interprétée par Charles Aznavour. J'aime beaucoup la fin. Ils ont crié vive le roi, vive la reine et vive la loi. Et surtout, vive la liberté.
Vive la liberté.
Ça n'est pas incompatible.
Non, ça n'est pas incompatible. D'ailleurs, dans les figures de la liberté, vous avez à la fois des gens comme Larouri, l'inventeur des libertés bretonnes, qui a été le premier chouan, puis vous avez le colonel Rossel, le type de la commune, qui a été fusillé à Satory. Alors même dire qu'il était très critique de l'organisation de la commune, mais qui a voulu être fusillé avec les communards. Ce qui est frappant, c'est qu'au fond, à la fin des fins, ce que j'ai observé, même dans ma vie professionnelle, c'est presque une question d'instinct, c'est-à-dire il y a des gens qui préfèrent la liberté, des gens qui préfèrent l'ordre. Voilà. D'ailleurs, il n'est pas toujours méprisable de préférer l'ordre, mais c'est une question d'instinct, c'est une question de conformité intérieure. Au fond et malgré tout, je pense que les Français, s'ils doivent laisser une trace dans l'histoire, c'est parce que majoritairement, ils appartenaient plutôt au camp de ceux qui préfèrent la liberté. Ce qui est frappant, c'est préférer la liberté, ça n'est pas préférer le n'importe quoi. C'est d'une certaine manière concevoir que la liberté, l'infinité des possibles, la pure option, comme dit Sartre, vous accompagne tout au long de votre vie, qu'il s'agisse d'aboutir à des choses favorables ou à des choses défavorables. Dans le poème d'Éluard, ce que je trouve merveilleux, vous savez, sur toutes les pierres lues, sur toutes les pages lues, sur toutes mes pages blanches, pierre sans, papier ou cendre, j'écris ton nom, c'est que, en fait, c'est un poème absolument en forme de vague. C'est-à-dire qu'au début, il y a l'enfance, les pages lues, la liberté. Et puis ensuite, il y a le doute, la désespérance, le désamour, le désespoir, la crise politique. Et ça se termine par un magnifique chant d'espoir. Je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté. En fait, la liberté est une sorte de respiration intérieure. C'est profondément une respiration intérieure.
On se trouve juste devant l'église Saint-Étienne-du-Mont. J'imagine que vous avez l'intention d'y entrer.
Oui, j'ai l'intention d'y entrer parce que c'est une église très importante pour des tas de raisons d'ailleurs. Vous allez le découvrir.
Frédéric Taddeï se balade avec François Sirot sur Europe 1.
Eh bien voilà, nous entrons dans l'église Saint-Étienne-du-Mont. avec François Sureau. Vous êtes chrétien, hein, François Sureau.
Ah oui, oui, oui. Oui, on a du mal à dire ça. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est un orthodoxe, qui était Bloom, qui était un anglais, un russe qui est devenu anglais, qui ensuite est devenu métropolite orthodoxe de Londres. Et un jour, il était interviewé à la BBC, comme ça. Et alors, il est l'évêque orthodoxe de Londres, c'est le métropolite. Il a une tête de métropolite avec une grande barbe, une grande croix et tout. Et le journaliste de la BBC lui pose la même question. Et il dit, mais enfin, vous êtes chrétien, monseigneur? Et alors, il y a un silence. Et il dit, personne ne devrait pouvoir prononcer un tel mot sans honte. J'aime bien cette formule. Alors, on va poursuivre par la droite.
Il faut dire que c'est une des plus jolies églises de Paris.
Elle est tout à fait étonnante, parce qu'elle a un côté, si je puis dire, surréaliste, avec le jubé, avec les escaliers.
Il paraît que c'est le dernier jubé.
Avec les escaliers qui tournent.
Il faut dire pour les auditeurs, parce que tout le monde n'est pas familiarisé avec le jubé, moi je l'ai appris en visitant pour la première fois cette église, c'est une sorte de tribune qui séparait d'ailleurs le prêtre de la messe, puisque c'est sur la tribune qu'il... donner la messe avant qu'on invente la chaire. Là, il est très très beau. Ce très beau jubé, il y a des escaliers qui s'enroulent autour des colonnes pour y parvenir. Ah oui, et puis il y a le Christ au-dessus.
C'est une église absolument splendide. Et alors, la raison pour laquelle je vous ai emmené là, non, on va pas tarder à la découvrir, c'est que c'est une église... D'abord, c'est une église où était un moment enterré un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Antoine Lemaître de Sacy. Saint-Étienne-du-Mont a été très central dans la question janséniste. Avec le jansénisme, quelque chose de très important, y compris pour la liberté, puisqu'en fait, énormément d'historiens ont montré que le jansénisme, par son opposition à l'état monarchique de Louis XIV, avait été l'un des ferments de la Révolution française. La plupart des parlementaires qui sont opposés ensuite au roi étaient des parlementaires qui étaient marqués par l'école janséniste, qui prenait une séparation à peu près absolue en réalité de la pratique religieuse et de la pratique étatique. Et donc le jansénisme est certainement un des ferments de la Révolution française. Ici a été enterré un homme extraordinaire qui s'appelait Antoine Lemaître de Sacy, parce que les jansénistes vont par famille, Arnaud d'Andilly, Lemaître de Sacy, et Lemaître de Sacy était très certainement le plus grand avocat au sens parlementaire de son temps. Le chancelier Séguier, Richelieu ont voulu en faire des personnages absolument de premier ordre, et à l'âge de 31 ans, alors qu'il était au fait de sa gloire, il a décidé de tout abandonner, de se réfugier à Port-Royal de la ville, où il s'est mis à composer des ouvrages religieux, et c'était un personnage absolument extraordinaire. Il y a quelques années après sa réclusion volontaire, ça a été un des grands mystiques du XVIIe siècle, après sa réclusion volontaire, des bonnes sœurs ont voulu le faire sortir pour plaider une affaire, et alors lui qui ne parlait plus est ressorti, ça va droit au cœur, et il a été une nouvelle fois le plus brillant, le plus intelligent, le plus incroyable, et ensuite il a repris son manteau gris, retourné s'enfermer à Port-Royal-des-Champs. Et donc il était enterré dans cette église, et maintenant on a d'ailleurs ramené sa dépouille à Port-Royal-des-Champs.
Europe 1, 11h30, en balade avec François Sureau.
Et là, nous sommes dans un hôtel consacré à la Vierge, Mater Miséricordiae, et il y a deux piliers, un à gauche et un à droite. Et je vais commencer par le pilier de droite qui est à l'intérieur duquel se trouve le corps, probablement de ce qui est pour moi, si on peut dire ça, l'un des plus grands écrivains français de tous les temps, qui est Blaise Pascal. Le corps de Blaise Pascal, mort le 19 août 1662 sur cette paroisse de Saint-Étienne-du-Mont, a été inhumé près de ce pilier RIP, ce qui veut dire Requiescat in pace, repose en paix. La fin de Pascal est absolument... D'abord, Pascal, c'est le génie des mathématiques, c'est un écrivain absolument indépassable. C'est quelqu'un que les Français adorent et qui est en même temps assez peu français, par sa radicalité, par son étrangeté, par... Les circonstances de sa mort sont extrêmement... L'une des lettres de la fin de sa vie, c'est « Comment se fait-il que j'ai si fort aimé les pauvres et que je n'ai jamais rien commencé de faire pour eux ?» Et le résultat, c'est qu'il habitait à côté rue Neuve-Saint-Étienne-du-Mont, là, derrière l'église. Il trouve dans la rue une famille avec un petit garçon qui a la variole et deux ou trois pauvres. Il les installe chez lui et il va mourir seul chez sa sœur parce qu'il voulait bien avoir commencé à faire quelque chose pour les pauvres. Il avait eu une histoire assez touchante. 3 mois avant sa mort, dans cette église là où nous sommes, il sort sur le parvis et il voit une jeune femme d'une grande beauté qui mendie dans la rue. Et ça a été, d'une certaine manière... le dernier amour au sens absolument platonique de Pascal, c'est-à-dire qu'il l'a vu, il l'a ramené chez lui, il l'a emmené ensuite au séminaire de Saint-Sulpice, bien que les Sulpiciens n'aient pas été spécialement favorables aux jansénistes, en demandant au prêtre de s'occuper d'elle, il leur a donné de l'argent, elle était à la fois mendiante et prostituée, et pour la sortir du ruisseau, ce qu'elle a fait. Et ça a été le dernier geste de Pascal, qui à peu près à la même époque avait écrit cette lettre où il dit « Je n'ai à peu près rien pour contenter les autres ». C'est-à-dire où il exprime que seul Dieu peut contenter quelqu'un. Vous voyez, qu'aucune personne ne peut apporter le bonheur à quiconque d'autre. Voilà.
Vous le pensez aussi, ça ?
Oh, je pense qu'on peut éviter de faire du mal aux gens, ça c'est sûr. Mais je pense certainement que Pascal avait raison et qu'à moins d'être traversé par une force supérieure, on ne peut certainement pas faire le bonheur de quiconque et qu'il serait même un peu inquiétant de vouloir le faire, que ce serait même peut-être un peu diabolique. Vous voyez.
Et à gauche, et dans le pilier de gauche, il y a quelqu'un d'autre, mais vous allez nous dire qui c'est juste après une pause.
Europe 1, en balade avec François Sureau.
Toujours dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui date du XVIIe siècle, avec François Sureau, nous avons vu le pilier dans lequel repose le corps de Blaise Pascal, et de l'autre côté, un autre pilier.
Alors c'est un pilier où repose également le corps d'un autre immense janséniste, qui était Jean Racine. Quand on va à Port-Royal des Champs, d'ailleurs, on voit les un certain nombre de distiques qu'il avait fait, qui sont reproduits, qui sont mis sur les murs. Mais on ne présente évidemment pas Jean Racine. Jean Racine a donné une relation absolument extraordinaire. Des journées qui ont vu la dislocation du mouvement janséniste à Port-Royal de la ville par ordre du roi et aux ordres de l'archevêque de Paris de l'époque qui voulait leur enjoindre de signer le formulaire et qu'on appelait Périfix. Et cette description de Racine est absolument extraordinaire. La dislocation du mouvement janséniste dont Racine a parlé avec une immense douleur est la préfiguration des systèmes totalitaires du XXe siècle. C'est que le roi ordonne en réalité non seulement la fermeture des couvents jansénistes, mais également le viol des sépultures, la dispersion des ossements et des scènes d'une violence absolument incroyable. Il faut savoir qu'à l'époque, le jansénisme était très répandu parmi le peuple de Paris et que les curés jansénistes avaient la réputation d'être plutôt meilleurs que les autres, c'est-à-dire plus austères certainement, mais plus dévoués aux pauvres, plus soucieux du bien public, etc. Et d'une certaine manière, une part de défiance des Français à l'égard des institutions ecclésiastiques, notamment des institutions épiscopales, s'est nouée dans la répression du jansénisme, organisé conjointement par l'État et par l'épiscopat de l'époque, au détriment de ce que souhaitait probablement le peuple qui aimait bien ces gens.
Mais auparavant, on avait été habitué au vandalisme. Les catholiques vandalisaient les édifices protestants, les protestants vandalisaient les édifices catholiques.
Ça, c'est les guerres de religion. Mais ce qui est nouveau dans la répression du jansénisme, c'est véritablement le bras séculier. Ça, c'est l'alliance, en réalité, d'une fraction dominante de l'épiscopat avec la monarchie absolue pour porter atteinte à des choses à quoi on n'avait pas énormément porté atteinte jusque-là, puisque, d'après les historiens quand même, le viol systématique des sépultures, la dispersion des ossements, enfin des choses assez khmer rouges.
Surtout pour l'époque, les reliques, c'était très important.
Plusieurs historiens pensent par exemple que ce sont ces mouvements qui au fond ont été la préfiguration de ce qui a été le viol des sépultures royales à Saint-Denis au moment de la Révolution française. C'est véritablement le fait que l'État se reconnaisse le droit d'intervenir dans le domaine de l'au-delà.
Il y a dans cette église des orgues magnifiques également. Vous écoutez de l'orgue?
Oui, alors je ne sais pas, je dois avouer ma... Alors je la regarde de loin, mais j'ai l'impression que c'est un orgue 19e siècle, non?
Non, plus ancien, ma connaissance doit être du 17e à peu près.
Bien. Alors ça j'aime beaucoup parce que les orgues du 17e, ils ont une manière de faire... Mais ce que je veux dire, quand on écoute les sonates en trio de Bach et que l'air passe, moi je suis un fou des sonates en trio de Bach, alors quand l'air passe à travers les tuyaux, l'orgue du 17e ou du 18e siècle a une espèce de son rural comme ça que je trouve extraordinaire. Je voulais quand même dire un mot sur Jean Racine. Sa vie a été écrite par son fils. C'est une très très belle vie écrite dans un français classique. Ça m'a toujours fait rêver. Puis il parle du mariage de ses parents et il dit simplement en parlant du mariage de son père, ni l'amour ni l'intérêt n'eurent aucune part à leur choix. Et je trouve ça absolument extraordinaire. C'est peut-être la définition même du mariage spirituel.
Vous venez de parler de Jean-Sébastien Bach, ben c'est peut-être lui qu'il faut écouter alors, puisqu'on est ici.
Oui, si vous avez les sonates en trio, si vous avez les sonates pour orgue en trio, on peut se faire la troisième sonate en trio, c'est très très beau.
Eh bien allons-y.
Frédéric Taddeï se balade avec François Ciro sur Europe 1.
C'était la troisième sonate en trio de Jean-Sébastien Bach, choisie par François Sureau. Est-ce que vous vous êtes demandé déjà pourquoi vous croyez en Dieu ?
Alors, l'un de mes vieux maîtres qui était un père jésuite, un jour, j'étais en première ou en terminale, je devais être affligé d'une crise mystique. Je lui dis, écoutez, mon père, j'ai un vrai problème, je pense que je ne crois plus en Dieu. Alors il me regarde avec l'air absolument imperturbable, il me dit, ça n'a vraiment aucune importance. Je dis, ah bon, c'est un propos mochon. Oui, ce qui m'ennuierait vraiment, c'est que lui cesse de croire en vous. Je trouve qu'il y a, il y a une vérité dans cette phrase, c'est que l'idée de... Enfin, je veux dire, je ne crois pas en Dieu comme je crois à la constitution de la Ve République, vous voyez, c'est pas quelque chose dans lequel on croit de manière théorique ou rationnelle. En réalité, au départ de toutes ces questions, il y a l'impression, non pas qu'on a commencé à croire à quelqu'un, mais que le quelqu'un qu'on ne connaît pas est venu vous parler de mille manières mystérieuses. Et donc ça ne se passe pas dans le sens auquel on croit, vous voyez. J'ai eu une impression du même genre un jour, parce que je discutais avec un moine bénédictin que j'aime bien, et je disais, c'est quand même un peu ennuyeux, quoi. Dieu n'est jamais là. Et c'est vrai que... J'imagine que beaucoup d'auditeurs vont penser la même chose. Dieu n'est jamais là. Et ce sage vieillard me dit, mais détrompez-vous, c'est vous qui n'êtes pas là la plupart du temps. Et je trouve que cette remarque est assez juste aussi.
On continue notre promenade avec François Sureau. On va quitter la très belle église Saint-Étienne-du-Mont et continuer d'apporter le quartier latin.
Frédéric Taddeï, en balade avec François Sureau sur Europe 1.
Nous voilà sortis de l'église Saint-Étienne-du-Mont avec François Sureau qui publie Sans la liberté dans la collection Tracts de Gallimard. François Sureau qui est avocat mais qui est aussi colonel de réserve de la Légion étrangère.
Oui, bon, ça c'est un. Oui, alors, et
c'est assez impressionnant.
Non, pas du tout. C'est le troisième élément. Oui, on a commencé par les surréalistes. Les surréalistes et la liberté absolue, même la liberté par rapport aux formes esthétiques, l'écriture automatique, tout ça. Ensuite, on est allé à Saint-Étienne-du-Mont et on a affaire à Pascal et aux jansénistes, c'est-à-dire à une forme assez absolue de la liberté religieuse par le retrait, vous voyez, par le retrait des institutions publiques. Et d'ailleurs, ça s'est terminé dans une persécution abominable. Puis la Légion étrangère, à laquelle je suis très attaché, c'est quoi, au fond? Bah, c'est deux choses. C'est d'abord le fait de considérer qu'un homme vaut non pas à raison de son origine, à raison de sa religion, à raison de quoi que ce soit de ce genre, mais vaut à raison de son courage et de son dévouement, enfin de ce que les légionnaires appellent la fidélité dans leur devise. Et puis c'est aussi quelque chose à quoi je suis très attaché, parce que dans un monde qui tend de plus en plus au contrôle, à l'interconnexion, à l'ineffaçabilité des traces de toute nature, la Légion étrangère, c'est le dernier endroit où on puisse à peu près absolument se faire oublier. Voilà. Et je trouvais ça assez fascinant. Quand j'étais plus jeune, maintenant ça a changé, hein. Les légionnaires qui signaient leur contrat d'engagement le signaient à Aubagne, dans une salle où... et alors c'est des gens qui viennent de partout, qui sont de tous les milieux, qui ont quand même tous en commun d'avoir d'une certaine manière échoué dans quelque chose, dans la première partie de leur vie, ce qui rend leur engagement extrêmement touchant et émouvant. Et donc ils signaient dans une salle, ça me faisait rêver ça aussi, ils signaient dans une salle avec des portraits de légionnaires célèbres au mur. Alors qui étaient les légionnaires? Il y avait Ernst Junger, Cole Porter, Hans Hartung, Nicolas de Staël. Et alors, c'était comme une promesse. C'est-à-dire, ceux-là aussi se sont fait oublier chez nous. Et puis si vous venez, peut-être que vous deviendrez à votre tour un grand saxophoniste ou un peintre immense. Je vous avoue, quand je me suis engagé, j'ai eu une superstition de même nature. Puisqu'après tout, peut-être que le bon moyen d'acquérir enfin quelque chose qui manque, c'est de faire ce détour.
Mais vous êtes vraiment engagé, donc...
Oui, j'ai signé, comme beaucoup de Français, d'ailleurs, dans la réserve opérationnelle des armées. J'ai été affecté à la Légion étrangère, où j'ai servi pendant près de 15 ans sur différents théâtres d'opérations extérieures, comme on dit maintenant.
Europe 1, en balade avec François Sureau, Frédéric Taddeï.
Vous vous rappelez dans votre livre, je l'appelle un livre, hein, parce que pour moi il est important en plus, en tant que livre justement, ce texte que vous venez de publier, François Sureau.
Il est important et pas cher, et j'engage pour cette raison les auditeurs à se précipiter sur leur point de vente le plus proche.
Il est important parce que vous y rappelez qu'on nous a appris, et on nous apprend toujours à détester la tolérance religieuse qui avait cours sous l'Ancien Régime, à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant, les lois scélérates votées en réponse aux attentats anarchistes, le racisme du régime de Vichy, la montée de l'antisémitisme des années 30. On nous a appris à détester tout ça, et on semble l'avoir oublié quand on se remet, souvent inconsciemment, dans les pas de nos ancêtres que nous avons si souvent vu hégémonie.
C'est un mélange très curieux. D'abord, je trouve que nous cultivons quand même un assez grand nombre d'illusions sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, certes, on nous a amenés, on nous a éduqués, à juste titre, à détester tout ça. Mais enfin, en même temps, l'histoire nous donne une représentation de nous-mêmes probablement exagérément flatteuse. C'est-à-dire que les moments de l'histoire où la liberté de penser, d'agir, de vote, etc., était continuellement assurée au sein des institutions françaises, a été assez faible. En réalité, ça s'arrête pratiquement en 1792, et ça ne marche pas bien jusque sous la Troisième République. Et il y a un moment où, entre 1880, les lois sur la presse, etc., et 1914, on a un régime qui, persécution anticatholique mise à part, parce que on pouvait séparer l'Église et de l'État, moi j'aurais trouvé ça très bien, naturellement, si j'avais vécu à l'époque, ou même interdire aux religieux d'enseigner, on n'était pas obligé d'en expulser 40 000 quand même. Si on faisait ça maintenant avec n'importe quel représentant de religion, on voit très très bien que la Cour européenne des droits de l'homme nous condamnerait. Donc, nous n'avons pas une histoire des libertés qui soit une histoire exagérément favorable.
Oui, au fond, les libertés ne nous sont pas naturelles.
Les libertés ne nous sont pas absolument naturelles. Et il y a plusieurs raisons à ça. Je crois que l'une des raisons, c'est que le système politique français et institutionnel s'est construit par une sorte de sédimentation autour de l'État, cela même d'assurer une unité de la nation qui n'était absolument pas assurée a priori. La France est une création de la volonté politique, c'est pas une création de la géographie. Ça aurait pu tourner autrement. On pourrait être séparé en deux, la moitié être allemande, l'autre moitié anglaise. Enfin, la France est véritablement une création de la volonté politique. Et dès lors, l'État a occupé une figure centrale. Et on voit très bien, quand on compare notre système, en particulier notre système de droit, au système anglais, ou au système américain que le citoyen et la liberté du citoyen, sa liberté de détermination et de conscience, n'est pas véritablement à l'origine de notre propre système. Alors, ce qui me frappe en ce moment et qui m'inquiète, quelque chose de tout à fait différent, c'est ce que vous disiez, quand vous disiez, on est éduqué à l'antiracisme, enfin, à détester les périodes intolérantes de l'histoire, c'est vrai, mais ce qui m'inquiète maintenant, à l'heure actuelle, c'est la circulation des intolérances. C'est-à-dire un système où, au lieu d'une certaine manière d'édifier un système de liberté générale où nous tolérerions des expressions même extrêmement pénibles ou qui nous révoltent, en réalité, nous essayons de cantonner au maximum ces expressions pour éviter que chaque communauté particulière ne soit fâchée par l'expression des idées propres à la communauté des autres. C'est-à-dire, c'est la disparition d'une société politique de la liberté qui m'inquiète. Et ça, c'est assez nouveau.
Ce qui est assez nouveau aussi, ce que vous faites remarquer dans ce texte, c'est qu'on a vu au mois d'août, au moment d'une manifestation, place de la République, une manifestation contre les... le comportement des forces de l'ordre à Nantes pendant la fête de la musique et la mort de ce jeune homme noyé dans la Loire. On a vu, alors qu'il y avait 200 personnes à cette manifestation, il y avait des policiers armés d'armes de guerre.
Ah, ça, c'est un phénomène... moi, ça m'a frappé, parce que c'est...
Ça vous a frappé très... Ça n'a frappé personne, au fond. Non, vous êtes quasiment le seul qui l'avait remarqué. Oui, oui. Or, pourtant, on bascule dans un autre monde.
Oui,
là.
Mais c'est très paradoxal, parce qu'en même temps, si vous voulez... c'est des armes qui sont des armes de guerre, celles du même type que celles que j'ai vues sur des théâtres d'opérations extérieures. Donc pour quelqu'un qui a été en particulier sur les théâtres d'opérations extérieures, c'est extrêmement frappant de voir ça.
Mais quelqu'un qui connaît le quartier latin et tout ce qui a pu s'y produire, jamais on n'avait vu ça.
On n'avait jamais vu ça, ça c'est clair. De même qu'à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a dans Paris une sorte d'exagération de la mise en scène du maintien de l'ordre, les ponts barrés... Enfin, je vois des choses assez extrêmement spectaculaires qui me paraissent personnellement un peu étonnantes. Mais ce qui est assez curieux, c'est que ça va de pair aussi avec autre chose qui est que, parce que moi, je suis pas du tout insensible à la difficulté d'exercice des forces de l'ordre. C'est-à-dire que, en réalité, les policiers, d'une certaine manière, c'est le dernier rempart d'une société devenue collectivement incivile où l'assentiment aux institutions a largement disparu. Donc ils font un métier incroyablement difficile. Quand on discute avec certains d'entre eux, des responsables, des policiers de base ou des gendarmes de base, on se rend compte que cette exhibition de la force, qui est une décision du commandement en réalité, sur les armes de guerre, etc., va de pair avec un défaut absolument évident en matière d'équipement, en matière d'équipement simple, en matière de... on m'a rapporté le cas de commissariat de police qui n'avait plus de quoi faire circuler les véhicules parce qu'il n'y avait plus d'essence à partir du mois de septembre et jusqu'en janvier. Et donc, à la fois, on les équipe lourdement de choses spectaculaires et inutiles qui sont un défi à l'honorabilité et à l'intelligence du citoyen, qui ne devrait pas être exposé à être encadré par des forces équipées de cette manière. Et en même temps, on a l'impression qu'on ne leur donne pas non plus les moyens de remplir normalement leurs fonctions. Et je trouve que l'ensemble manifeste un mélange d'absence de sens de la dignité du citoyen et d'amateurisme technique qui me paraît plus bas-mâme que tout le reste.
Nous sommes dans la rue Cujas, d'où tous ces rires des étudiants, mais aussi des enfants des écoles primaires. On se retrouve avec François Sureau.
Europe 1, en balade avec François Sureau. Frédéric Tadéhi.
C'est avec François Sureau que nous sommes en balade aujourd'hui. François Sureau, écrivain, avocat, qui vient de publier Sans la liberté dans la collection Tract aux éditions Gallimard, un livre qui n'est pas tout à fait un livre, puisque je le disais, il n'est pas broché, mais un livre qui a fait déjà beaucoup parler, un livre dont nous parlons nous-mêmes. Là, nous sommes dans la rue Victor Cousin. Alors, c'est drôle parce qu'on vient de parler de cette manifestation qui a eu lieu récemment à Paris en août et où les policiers étaient équipés d'armes de guerre. Cette rue, on l'a vu beaucoup pour photo parce qu'il y a eu des barricades terribles en mai 68, mais il y a eu aussi plus récemment, au moment du CPE, le contrat première embauche, il y avait eu des affrontements entre les jeunes et la police. C'était encore très différent à l'époque. On était encore, on n'était pas encore comme on est aujourd'hui.
C'est-à-dire que ce qui est frappant, malgré tout, c'est qu'on dans les périodes d'émeutes précédentes, on avait l'impression globalement de forces hostiles opposées à un État raisonnablement sûr de lui-même et soutenu malgré tout, même en 68, par une forme de légitimité. Ce qui est frappant à l'heure actuelle, et j'y pensais parce que nous avons quitté à l'instant Saint-Étienne-du-Mont avec le tombeau de Pascal, ce qui est frappant et qui rend la situation actuelle un peu dangereuse à mes yeux, c'est que On a l'impression que le sentiment de l'assentiment public aux institutions a disparu. C'est vrai que dans sa théorie politique, Pascal, au fond, ne se pose qu'assez peu la question de savoir ce qui est juste ou injuste en matière d'institutions. Il constate simplement que certaines institutions suscitent le respect et l'adhésion, et que dès lors qu'elles garantissent le minimum d'ordre, c'est vrai que Saint-Augustin disait que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre, alors eh bien, il y a lieu de s'en satisfaire. Ce qui m'a, moi, personnellement, beaucoup frappé au moment de l'affaire des Gilets jaunes, c'est l'impression que j'ai eue que l'assentiment public aux institutions était en train de disparaître.
Pas seulement du fait des Gilets jaunes.
Et pas seulement du fait des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes étaient l'exploit. Il y a eu des manifestations extrêmement blâmables de la part des Gilets jaunes. Moi, j'ai été révolté par les gens qui guillotinent le président de la République en effigie. Tout ça, c'est des trucs burlesques. Enfin, burlesques dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, il y a un côté extrêmement pénible et
néanmoins,
grotesque.
Néanmoins, vous les avez soutenus dans un certain nombre de leurs revendications.
J'ai pas soutenu eux. Je suis frappé du fait que les Gilets jaunes étaient l'expression d'une sorte de malheur social moderne, mais qui a été relevé par Orwell, comme par Ellul, comme par Simone Veil, la philosophe. C'est-à-dire l'expression d'un monde qui n'a guère de sens, qui n'a pas beaucoup de sociabilité, dans lequel sont révérées à peu près unanimement les valeurs de l'argent, de la compétitivité et de la réussite, et non pas les valeurs de la solidarité et de l'humanité. Il y avait toutes sortes de choses dans ce mouvement, donc très difficile d'en faire la description, mais il y avait une part de protestation contre ça, et cette part de protestation, je pouvais tout à fait la comprendre. Mais ce qui était frappant, c'est que...
Je vous interroge, je le dis juste pour nos auditeurs, mais le bruit des fontaines qu'on entend, c'est parce que nous sommes arrivés sur la place de la Sorbonne.
Voilà. Donc nous sommes place de la Sorbonne, avec à gauche toute une foule de cafés, et à droite, en face des cafés, la philosophie.
Et derrière nous, la Sorbonne.
Librairie philosophique Vrin, et derrière, la Sorbonne. Et si vous voulez, cette question de l'assentiment est fondamentale. On voit très bien d'ailleurs que les institutions de la Ve République, par la concentration du pouvoir qu'elles provoquent sur la figure du seul président, surtout avec le quinquennat et la disparition de la possibilité d'une cohabitation, on voit très bien que paradoxalement la Ve République, qui avait été voulue pour être un régime fort, est un régime qui accroît la fragilité en concentrant la totalité de la symbolique du pouvoir dans une seule personne. Et on l'a vu au moment de l'affaire des Gilets jaunes, et j'ai trouvé
ça assez
inquiétant.
Donc en fait, c'est tant que cet État avait confiance en lui, il s'en sortait renforcé. Dès l'instant où il n'a plus confiance en lui, il en sort affaibli.
Il en sort affaibli.
Et à chaque fois qu'il fait voter de nouvelles lois qui réduisent les libertés publiques, les libertés individuelles, il est encore plus faible, d'après ce que vous dites.
Il est plus faible parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au fond, la déclaration le dit très bien. Le principe de la Constitution, le principe de l'association politique, c'est la défense des droits naturels de l'homme. Il n'y en a pas d'autre. Dès lors qu'un gouvernement s'éloigne de la défense des droits naturels de l'homme, en les bornant ou en les limitant parce qu'il craint le désordre, en réalité, il perd de la légitimité. Dès lors qu'il perd de la légitimité, il s'affaiblit, y compris dans les opérations de maintien de l'ordre. C'était là ce à quoi nous assistons.
Et tout ça a commencé, vous le dites, il y a une vingtaine d'années, et c'est surtout développé à partir des attentats de 2015.
Oui.
C'est là où on vote un état d'urgence qui ne sera pas, d'après ce que vous dites, très utile pour combattre le terrorisme.
Non, parce qu'au fond, l'état d'urgence, ça consiste à substituer un peu partout l'autorité administrative à l'autorité judiciaire, et dans un monde où les magistrats sont convenablement formés, il n'y a aucune raison de faire ça, et on peut tout à fait poursuivre les criminels en dehors de ça. Mais ce qui me frappe, il y a des lois qui existent, il y a des lois, elles fonctionnent, il y a un code pénal, il fonctionne. Je pense que l'état d'urgence qui a évidemment qui avait pour raison des attentats qui ont traumatisé à juste titre nos concitoyens, n'a été qu'un épisode de quelque chose de beaucoup plus ancien, qui est un mouvement permanent à la réduction des garanties individuelles et à la mise en œuvre d'une société de la sécurité. Vous savez, quand j'ai commencé mon métier d'avocat, les syndicats de police, ou de manière générale, un assez grand nombre de magistrats, s'opposaient à la présence de l'avocat en garde à vue. Et il n'y avait pas question de terrorisme à l'époque. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose révolte la conscience populaire, comme le terrorisme, la pédophilie, la fraude fiscale, la criminalité organisée, à chaque fois, immédiatement, toute une foule d'amateurs du concours Lépine politico-répressif sortent de leur tanière et expliquent que la seule manière de lutter contre ça, c'est de supprimer les garanties individuelles. Ce qui est très exactement le contraire de ce que nous avons voulu faire depuis le XVIIIe siècle. Mais le terrorisme n'est qu'un moment, n'est qu'un épisode dans cette idée de la réduction permanente des garanties individuelles. Pourquoi est-ce que c'est emmerdant, la réduction des garanties individuelles ? C'est parce que si les garanties individuelles se réduisent, tout citoyen, en réalité, est susceptible d'être intimidé par l'État. Dès lors que tout citoyen est susceptible d'être intimidé par l'État, on ne peut pas supposer que le choix par le peuple de ses mandataires, de ses représentants, que ce soit un choix entièrement libre, puisque précisément, il se passe dans un contexte d'intimidation.
Et puis en plus, plus personne n'est en sécurité.
Et puis plus personne n'est en sécurité. Alors ça, c'est très ennuyeux, parce que si personne n'est en sécurité, ça veut dire que le gouvernement cesse progressivement d'être démocratique. Alors on n'en est pas là, mais je suis inquiet de cette pente. Ce qui m'inquiète est moins les articles de loi qui peuvent exister, qu'on peut contrebattre, qu'un autre gouvernement peut défaire, qui est l'espèce d'unanimisme à considérer que la seule manière de réprimer l'émeute ou de venir à bout du mal ou du terrorisme est simplement d'abandonner la totalité des principes. Ça me paraît très dangereux.
On se retrouve dans un instant sur la place de la Sorbonne avec François Sureau.
Frédéric Taddeï, en balade avec François Sureau sur Europe 1.
Nous sommes sur la place de la Sorbonne avec François Sureau. Vous avez fait vos études ici ?
Pas du tout. J'ai fait très très peu d'études de droit.
Ah ben oui, vous êtes énarque, vous.
Oui. Alors, j'étais à Sciences Po, alors je pouvais aller en droit. Alors j'ai fait ma première année et j'ai été... J'ai pas réussi le passage en seconde année. Voilà. J'ai essayé de me venger par la suite, mais j'étais assez... J'étais pas excellent du tout. Voilà. Donc, j'aime beaucoup le quartier, simplement parce que j'allais chez Vrin. On devrait s'approcher de voir ce qui se publie chez Vrin, vous voulez pas?
C'est la librairie philosophique.
La librairie philosophique Vrin, qui est quand même quelque chose célèbre, où tout le monde a appris à penser, plus ou moins. Et on va voir s'il y a des ouvrages à recommander aux auditeurs. Parce que c'est quand même le côté sympa des balades dans Paris, c'est ça. Alors, bon, Jean Duns-Scott, c'est un tout petit peu compliqué. Ah oui, c'est très Moyen-Âge. Le Moyen-Âge doit être au programme de l'agrégation.
Oui, il y a la philosophie du Moyen-Âge.
Vous avez la liberté en acte, éthique et métaphysique d'Alexandre d'Aphrodise à Jean Duns-Scott. Voilà, je suis pas absolument sûr que...
Et à gauche... Ce sont des livres très, très pointus.
Oui, c'est très pointu. Ah, et à gauche, il y a quand même Michel Foucault, Folie, langage, littérature... et puis des choses quand même assez difficiles, épistémologie esthétique de l'espace chez Gaston Bachelard, j'aime énormément Gaston Bachelard, je veux dire. Mais enfin, non, je suis pas absolument sûr qu'on va faire immédiatement des recommandations de lecture quand même. Hein.
Europe 1, 11h30, en balade avec François Sureau. Frédéric Taddeï.
Il y a quelque chose que vous constatez dans Sans la liberté, c'est que chaque fois qu'on fait des exceptions, qu'on consent aux circonstances exceptionnelles, comme le terrorisme par exemple, et c'est ce qui est arrivé avec l'état d'urgence, avec un certain nombre de lois ensuite qui ont réduit nos libertés, vous dites que en fait ça se retrouve très vite étendu à la vie courante. Les autres victimes, les victimes au fond ne sont pas les terroristes, ce sont les écologistes, c'est aujourd'hui les gens qui voudraient manifester, ça a été les gilets jaunes et ça peut être vous, moi et tout le monde.
C'est une règle de base. Il n'y a pas de cas où... Alors, on a un système de... Il faut partir du principe, ce que les gens ne voient pas. Je pense que nous avons un système de droit très répressif, et normalement et intelligemment répressif, avec une magistrature qui l'applique, avec un parquet qui le poursuit, avec des juges du siège qui la jugent. Et ceci vaut pour les actes les plus graves, des dégradations dans les émeutes, jusqu'aux actes de terrorisme. Donc, ce système existe. Ce n'est pas comme si nous n'avions rien. Voilà. Pourquoi, dans ces conditions, mettre en place des systèmes exceptionnels où on suspend les garanties des accusés ? On se le demande. Et d'autre part, on observe qu'à chaque fois qu'on le fait, l'État a naturellement tendance à les utiliser ensuite pour tout autre chose que les raisons pour lesquelles ça avait été fabriqué à l'origine. Mais c'est un exemple absolument classique. On s'est servi, par exemple, Vichy a créé une législation relative à des actes terroristes, qualifié de terroriste de l'époque, c'est-à-dire des actes violents de résistance, etc. Et on l'a utilisé au bout d'un moment pour réprimer les femmes coupables d'avortement. Et ce système existe de manière pratiquement systématique. Pourquoi ? Parce que, en fait, un dispositif exceptionnel, c'est un dispositif qui comporte très très peu de critères de mise en œuvre. Par exemple, au moment de l'état d'urgence, le préfet pouvait assigner à résidence n'importe qui. Si le préfet peut assigner à résidence n'importe qui, et pas simplement des islamistes, c'est là où le politiquement correct joue, parce qu'on ne va pas dire dans le texte des islamistes. Donc on ne le dit pas, puisque le politiquement correct l'empêche. Et donc on dit qu'il peut assigner à résidence n'importe qui. Résultat, le préfet assigne à résidence des supporters de clubs de foot ou des écologistes. Et ce mécanisme est absolument systématique. Ce qui est très curieux là-dedans, c'est que se combine pour diminuer le pour affecter le climat général des libertés et les libertés de tout le monde, se combine l'option circonstance exceptionnelle avec le politiquement correct. Puisqu'on ne dit jamais ce qu'on vise. On ne dit jamais ce qu'on... On aurait dit... j'aurais trouvé ça blâmable pour des motifs philosophiques, hein, mais on aurait dit dans la législation de l'état d'urgence, eh bien, nous allons réprimer les musulmans de telle catégorie, portant une barbe de telle longueur, chaussés de sandales de telle manière, disposant chez eux de 18 pains de plastique, et ceux-là, on va les assigner à résidence. J'aurais trouvé ça blâmable pour des raisons de neutralité religieuse. Mais enfin, j'aurais mieux compris que le fait de dire le préfet peut assigner à résidence tout le monde. Voilà.
Et c'est encore le cas.
Et c'est, alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que, ça c'est aussi un vice du système actuel, c'est que l'état d'urgence, il a été fait sous Hollande, Valls et Cazeneuve, et il a été fait en fonction d'une théorie des circonstances exceptionnelles. Après tout, on pouvait aussi bien penser qu'on pouvait le lever et revenir à l'état antérieur. Le gouvernement actuel n'a pas fait ça. Le défaut du système antérieur, c'est qu'on l'a laissé proliférer pendant 2 ans, ce qui est un peu absurde. Bon. Mais le gouvernement actuel, en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Au lieu d'en finir avec l'état d'urgence et de revenir au système antérieur, il a introduit dans le droit commun certaines des dispositions de l'état d'urgence, notamment les dispositions de l'assignation à résidence, manifestant ainsi cette espèce de tendance permanente de course à l'abîme où, globalement, les circonstances exceptionnelles l'emportent de manière quasi permanente sur le droit commun, ce qui est quand même un vrai sujet.
Est-ce que vous n'êtes pas étonné, François Sureau, aujourd'hui d'en arriver à de telles constatations, de tenir de tels propos dans Paris, devant la Sorbonne, alors que nous sommes en paix ?
Si, mais encore une fois, cette surprise est diminuée chez moi par le fait que l'étude à laquelle je me suis livré, l'évolution de nos libertés publiques depuis le XVIIIe siècle, en réalité, montre qu'il en a toujours été ainsi. Il y a une exposition en ce moment à la maison de Balzac que m'a signalé l'un de mes correspondants, où on voit une description des opérations de maintien de l'ordre au moment des journées de juillet en 1830, avec, oui, les canons à eau et la suppression de la liberté de la presse.
En 1830, on n'est pas étonné, mais de se dire qu'on était plus libre il y a 30 ans qu'on ne l'est aujourd'hui,
oui,
ça fait peur.
C'est parfaitement vrai, mais l'histoire des institutions publiques en France, elle est là-dessus absolument sinusoïdale. On était probablement moins libre en 1930 pour des raisons de législation d'exception sur un certain nombre de points qu'on l'était en 1890. Et puis, nous l'avons été assez peu jusqu'en 1971 parce que le gaullisme, qu'on regrette unanimement maintenant, était un régime assez hard sur le plan de liberté publique, des offenses au chef de l'État, aux cours militaires statuant sans recours, enfin des choses quand même assez, assez dures. Ça n'est qu'à partir de 71 qu'on admet, qu'on juge de la constitutionnalité d'une loi par rapport à la déclaration des droits. Donc il y a une période heureuse globalement qui va de 1971 au début du XXIe siècle. Et depuis, sous l'effet à la fois de la crise économique, du chômage, du malheur social, du terrorisme, de l'islamisme et d'une sorte de perte de crédit des gouvernants, alors nous paraissons nous diriger tout droit vers un système plus sécuritaire que les systèmes antérieurs.
Puisqu'on est à Paris, puisqu'on parle de Paris, écoutons Paris Marose par Serge Reggiani. Ça vous va ?
Ça va très bien.
Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Où est passé Paris Marose ? Paris sur Seine l'a bouclé. Sont partis en portant la clé, les nonchalants du long des quais. Paris Marose, où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Genin, l'avenue? Et le chemin vert, qu'est-il devenu? Lui qui serpentait près de la Bastille. Où est passé Paris la grise, Paris sur brume la mouillée. Les partis, Paris l'oublié, parti sur la pointe des pieds. Paris la grise, où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis? Ces soleils de craie, où sont-ils partis qui faisaient l'amour au mur des églises? Où est passé Paris la rouge, la commune des sans souliers. C'est perdu vers Aubervilliers ou vers Nanterre, l'embourbé, Paris, la rouge. Où est-il passé, Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on ne voyait que lui au trou des chemises? Où est passé Paris que j'aime?
C'était Paris Marose, interprété par Serge Reggiani. On se retrouve juste après une pause avec François Sureau.
Europe 1, en balade avec François Sureau. Frédéric Tadéhi.
Nous sommes toujours sur la place de la Sorbonne, par un beau soleil, juste au pied de la statue Auguste Comte, en face du tabac de la Sorbonne, avec François Sureau. François Sureau qui, dans son dernier livre, Sans la liberté, dresse un panorama assez inquiétant de la situation actuelle, puisque vous y ajoutez la loi anti-casseurs, la loi sur les fake news, la loi réprimant la haine sur Internet. Tout ça est de très mauvais augure, dites-vous.
Ce qui est de très mauvais augure, c'est de ne plus parvenir, au fond, à accepter les conséquences de la liberté. Et aussi, cette idée absolument française, cette superstition française qui consiste à ne pas voir que... Évidemment, moi je suis comme vous, comme tout le monde, comme la plupart des auditeurs, les discours complotistes, antisémites, racistes, xénophobes, négationnistes, tout ça, ils me font absolument horreur. Une fois qu'on a dit ça, se posent deux questions fondamentales. Est-ce que parce qu'une opinion est émise, on doit en conclure qu'elle est un vecteur nécessaire de terrorisme ou d'actes violents? Ça, c'est une vraie question, parce que toute notre civilisation se fonde sur la distinction de la représentation et de l'action. Donc si on commence à dire qu'un discours, quel qu'elle soit, est nécessairement la cause d'un acte violent qu'on réprouve, nous basculons dans un système totalement inconnu. Donc ça, c'est la première chose qui m'inquiète. La deuxième chose, c'est que si on le pense, ou si on ne le pense pas, ou si on ne le pense que modérément, alors on se dit, au fond, pour éviter que de tels discours soient tenus, eh bien, il faut confier à quelqu'un la charge de les censurer. Et c'est là où le problème se pose, parce que qui les censure? L'État, les juges, les autorités administratives indépendantes? Mais au nom de quoi? Au nom de quoi se formerait-il l'opinion doctrinale générale par rapport à laquelle censurer les opinions divergentes? Une fois que vous êtes rentré dans ce mode de pensée, alors aujourd'hui on va censurer M. Forisson et M. X ou Z, donc on trouvera ça très bien, et puis demain, parce que l'esprit du temps aura changé, on admettra que l'État puisse censurer l'opinion de ceux qui pensent que le capitaine Dreyfus était innocent. Et ça, c'est très ennuyeux.
On le voit aussi avec les lois mémorielles.
Et on le voit.
Puisque tout le monde veut de nouvelles lois mémorielles.
Oui, l'organisation, si vous voulez, par l'État, d'un système où on définirait ce qui est licite ou illicite sur le plan intellectuel, est quelque chose qui me paraît extrêmement dangereux. Alors, ayant dit ça, je vois bien, et je suis le premier à être extrêmement choqué par le caractère pénible, angoissant, accablant, révoltant de choses qu'on peut lire quelquefois sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Mais il me semble que le prix à payer de la censure est un prix beaucoup trop élevé et extraordinairement inquiétant.
Mais vous croyez que ce prix à payer de la liberté, au fond, nous sommes encore prêts à le payer aujourd'hui?
Oui, je pense. Je pense que nous subissons depuis une dizaine d'années, notamment de la part du personnel politique, mais aussi de la presse d'ailleurs. Moi, ça m'a beaucoup frappé au moment de l'attentat de la préfecture de police. J'ai lu 3 ou 4 titres de journaux qui étaient « Le système de sécurité français frappé au cœur ». Ben non, c'est pas vrai, il n'est pas frappé au cœur. C'est un drame abominable, il y a 4 policiers qui sont morts, mais le système de sécurité français n'est pas frappé au cœur. S'il est frappé au cœur, il n'y a qu'à plier les Gaules et tous se réfugier à Guernsey pour y chanter des cantiques. Il n'est pas frappé au cœur. Il y a une exagération de la mise en scène de la société de la peur, soit de la part de la presse parce que ça fait vendre, soit de la part du personnel politique parce que ça fait élire, qui est quelque chose qui me paraît extrêmement blâmable. Mais je pense que ça ne durera pas. Je pense que, globalement, dans leur profondeur, les gens ont plus de sens commun qu'il n'y paraît. Quoi.
Donc les Français ne veulent pas la tyrannie. C'est ce que vous avez l'air de laisser entendre dans
votre
livre.
Non, je ne pense pas qu'ils la veulent. Je pense qu'ils sont conduits comme les aveugles de Bruegel, vous voyez, je pense qu'ils sont conduits depuis une vingtaine d'années par des discours incroyablement anxiogènes et exagérés, mais que dans ces profondeurs, on reste quand même le peuple de la liberté, de la division, des contradictions, des options contraires, qui est profondément, quand on y réfléchit, ce qui véritablement nous constitue dans l'histoire. On n'est pas des Aztèques à craindre le chaos, on n'est pas des Chinois qui préféreront être organisés de la manière dont le système chinois à l'heure actuelle s'organise, combinant les pouvoirs sociaux de l'État, des sociétés d'information, des banques, de manière assez épouvantable à mes yeux. Nous ne sommes pas ça, on est le pays du bordel, de l'inventivité, de l'énergie créatrice, et à certains égards et à certains moments, comme prix à payer pour tout ça, hélas, nous sommes aussi le pays des affrontements violents, de la guerre civile et de l'idéologie. Mais je pense que nous n'allons pas cesser demain matin d'être le peuple de cette espèce d'inventivité dans la liberté. Je ne pense pas, je ne le sens pas. Et d'ailleurs, si je le sentais, je n'aurais pas écrit ce livre, parce que, au fond, ce livre est une espèce d'appel, non pas à nous réveiller, ça serait prétentieux de faire ça, mais une espèce d'appel à retrouver ce qui nous constitue et qui est l'amour de la liberté. J'y pensais, là, à l'instant, en regardant la coupe, on est juste devant la coupole de la Sorbonne, et je pensais à ce que dit Giraudoux. Il est sur la Tour Eiffel, hein, donc nous on est au pied de la Sorbonne, mais c'est un peu la même chose. J'ai sous les yeux les quelques hectares de terre où il a été le plus pensé, le plus aimé, le plus parlé, le plus écrit. Enfin, c'est ça qui nous constitue. Et ça, je pense que c'est pas prêt d'arrêter.
Merci François Sureau, et merci d'avoir fini sur une note optimiste, parce que quand on lit votre livre, on peut être inquiété. Quand on vous écoute, on n'est pas tout à fait rassuré, mais au moins on reprend le sourire. Merci de nous avoir emmenés en balade avec vous. Je rappelle que Sans la liberté, votre tract, puisqu'il est paru dans la collection Tract, est édité chez Gallimard. Je me remercie l'église Saint-Étienne-du-Mont de nous avoir si gentiment accueillis, ainsi que l'hôtel des grands hommes sur la place du Panthéon. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
Europe 1, 11h30, Frédéric Taddeï.